donc la guérilla colombienne avec le gouvernement de Colombie, le nouveau gouvernement de Colombie. Donc, au contraire, ils participent à la paix, ils participent pas au terrorisme. Donc, il faut supprimer, et on a une pétition mondiale qui s'intitule « Campagne pour 1 million de signatures contre la liste de l'inscription de Cuba sur la liste des pays terroristes adressée à Biden.
Okay. Et on peut venir la signer donc sur le stand de France Cuba et prendre les coordonnées là-bas, puisque nous allons devoir passer le relais donc à l'émission suivante.
Oui, je voudrais juste dire qu'on est présent et donc on a la pétition contre le blocus, la pétition contre l'inscription de Cuba sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, et on a toute une documentation et on peut renforcer l'association en passant au stand de France Cuba qui se trouve sur le village associatif de la
Braderie de Lille. À Port de Paris.
Port de Paris, oui.
Voilà, à côté de la mairie. Donc voilà, donc nous allons, je pense, passer sur la prochaine émission. Donc on passe au rouge.
Merci de m'avoir donné la parole.
Ah, je vous en prie. Bonne journée à vous.
Merci.
Pardon, Marcel, oui, chauffe, Marcel, toujours en direct de la braderie de Lille, 106,6, campuslille.com, DAP+, on l'a dit, on l'a répété aujourd'hui, on le répétera encore jusqu'à 21h, on sera aussi là demain, dimanche 3 septembre, de 10h jusqu'à 17h, vous pouvez nous retrouver sur le stand de Radio Campus, salut Thomas. Et oui, bah, il y a plein de copains qui passent tout le temps sur le stand, ça fait bien plaisir. Dans quelques instants, on passe au rouge, une émission. Il y a encore un téléphone qui sonne, s'il vous plaît, si on pouvait juste.
Il y a plein de gens qui passent, c'est
silencieux.
Normal.
Silencieux. On passe au rouge, c'est tout de suite Marcel Indicatif, s'il te plaît.
Que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche.
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques. C'est les briques rouges.
C'est capitalisme, n'y pas, et jouez pas au con avec
lui. On est trop gentils.
Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence.
On est gentils. Hein? On est toujours gentils.
C'est le capitalisme, n'y pas,
rouge, je veux dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Voilà. Vin qui dit vin, qui porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je veux pas pour les capitalistes.
Tolérant.
Bon, j'ouvrier.
On est trop gentils.
Et oui, en direct de la Bradville Lille, on passe au rouge avec, avec les pompiers hein, qui passent régulièrement. Il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui prennent pas soin d'eux. Mais nous on fait attention aux gens, on fait attention à la population. Vous écoutez une émission de lutte des classes qui va vous être présentée par Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques.
Salut.
Une émission dont le thème principal, nous l'avons choisi déjà un petit moment, ce sont les révoltes, les émeutes. Hein, vous allez nous dire quel est le mot que vous choisissez autour de ce plateau. On a un super plateau pour parler de ce qui s'est passé suite à l'exécution, je crois que c'est le bon mot là pour le coup, de Naël.
On va demander
à Saïd Bouamama qui est d'accord avec moi à côté.
Qu'ils en pensent.
Voilà. On entendra aussi d'ici très peu de temps Philippe Alien, qui est l'ancien rédacteur en chef de Feu Liberté Hebdo, un journal communiste et local que l'on regrette et qui est mort un peu discrètement lors du mois d'août. Salut Philippe.
Bonjour.
Mais nos deux invités principaux sont des sociologues, Jean-Jacques.
Oui, alors on va, je vais demander de se présenter chacun. Alors on a Julien Talpin, sociologue au CERAPS.
Oui, bonjour, je suis chercheur en sciences politiques au CNRS, au CERAPS, Université de Lille. Et je travaille pas mal sur l'engagement dans les quartiers, notamment à Roubaix, qui est un des terrains de longue date.
Et on a lu le livre « Bâillonner les quartiers », on en parlera. Saïd Bouamama, on vous... présente plus, mais on va quand même le faire, militant de longue date l'air auprès des sans-papiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus?
Non, juste que je suis maintenant à la retraite, mais que mon option sociologique, c'est de considérer que il faut être à la fois militant et sociologue, que c'est le fait d'être militant qui permet aussi d'alimenter les hypothèses qui nous permettent de comprendre le monde.
C'est probable que Julien Talpin dise la même chose.
Je suis d'accord.
Alors, on a Philippe Alien, on voulait parler nous, de ce qui s'est passé pour Liberté Hebdo. Et Liberté Hebdo existait depuis des décennies.
Depuis 1944.
Dans le Nord, quotidien,
80 ans,
puis hebdomadaire. Expliquez-nous un peu ce qu'il se passe.
Écoutez, nous sommes le 2 septembre, un samedi. Ça fait exactement 2 mois. C'est un anniversaire. Youplabou, que le journal n'existe plus. En fait, il a été liquidé. Officiellement, il n'existe plus depuis le 3 juillet. Il a été liquidé quelques jours plus tard. Bon, c'est un problème de financement. Hein. La presse d'opinion a du mal, comme toute la presse d'opinion, comme la plupart de la presse. Il se trouve que là, effectivement, l'arrêt a été pour le moins brutal. Les salariés ont été prévenus à samedi. Donc je vous disais, il y a pile poil 2 mois, matin, convoqué à une réunion le lundi matin, sur le coup de 11h, et à midi, voilà, c'était terminé. Nous ne rentrions plus dans nos bureaux. Il n'y a plus la parution prévue fin juin, puisque c'est un hebdomadaire, il n'y a pas eu de parution fin juin. Et depuis, le journal a été liquidé. Nous sommes tous licenciés depuis le 17 juin. Juillet.
Précisez-nous un peu quel rôle aviez-vous, Philippe Alien, dans ce...
J'étais rédacteur en chef du journal, c'est-à-dire animateur de la rédaction.
Alors Liberté Hebdo, c'est une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous en tracer les grandes lignes? C'est une histoire qui a commencé à la Libération.
Avant, puisque c'est un journal qui est issu de la résistance. Ça s'appelait L'Enchaîné, qui a été créé juste au tout début de la guerre. C'était un journal interdit, donc c'était une feuille clandestine, comme il y en avait d'autres. Et puis à la Libération, donc le 5 septembre 1944, les gens qui étaient issus de ce journal n'étaient pas tous là. Hein. Certains sont partis, on les a pas revus. Je ne vous dis pas pourquoi. Ce sont des gens donc qui ont fait de la formation dans une période très très difficile. Bon, il y avait la possibilité donc de recréer des titres, mais il y avait un délai de, je ne dis pas de bêtises, 48 heures pour créer un journal, pour créer un titre. Liberté s'est créée en 48 heures avec 2 personnes. Voilà, le patron de la Fédération du Nord à l'époque, et puis quelqu'un qui connaissait un peu la presse.
La Fédération du Nord, c'est la Fédération du Nord du Parti communiste français.
Du Parti communiste, j'entends bien, oui, bien sûr que oui.
Oui, parce qu'il s'agit bien d'un journal communiste, c'est-à-dire qui appartenait à des communistes.
On parle du Parti des Fusillés, bien évidemment. Donc le Parti communiste français, nous sommes bien d'accord. Voilà. Et bon, il n'était pas question de créer un journal qui s'appellerait Le Renchaîné à la Libération, ça n'aurait pas eu de sens. Et c'est comme ça qu'est née Liberté. Donc ça avait tout son sens. Ce journal a duré sous sa forme quotidienne jusqu'en 1992, juin 1992. Là, il a été liquidé. Pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure, la presse communiste a toujours eu beaucoup de mal, mais il était diffusé sur toute la région Nord-Pas-de-Calais.
Et de façon quotidienne, c'était un quotidien.
Quotidien, c'est bien ce que je dis, avec des bureaux dans les grandes villes, sur le littoral, par exemple, très proche évidemment des ouvriers, du peuple. Les grandes luttes, d'ailleurs, ça s'est terminé avec les grandes luttes à Dunkerque, les dockers. La fin du statut des dockers correspond, c'est le hasard, à la fin du journal Liberté. Mmh. Mais auparavant, il y avait eu la construction navale, la réparation navale, la sidérurgie, etc., etc., et toutes les grandes autres luttes dans la région. Et là, les communistes du Nord, comme ceux du Pas-de-Calais d'ailleurs, se sont dit, je parle des fédérations, Nord et Pas-de-Calais, se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça, sans journal, sans titre, et nous allons recréer quelque chose. Et en décembre est paru Liberté Hebdo, tel qu'on le connaissait il y a encore quelques temps, pour le Nord, et l'hebdomadaire pour le Pas-de-Calais, qui avait une autre ligne éditoriale, qui est devenue ensuite Liberté 62. Les deux titres ont fusionné, je ne vais pas faire plus loin, pour finir par Liberté Hebdo, qui est mort il y a maintenant 2 mois.
Oui, oui. Alors, il y a quand même des abonnés depuis des années. Alors, effectivement, de moins en moins de militants, sans doute.
Mais bien sûr, c'est un peu l'histoire du Parti communiste, hein, et du militantisme. Sauf que nous sommes dans une période, et ça, je ne vais pas vous le cacher, vous le savez très bien, nous sommes dans une période de lutte sociale et de lutte politique qui est extrêmement importante, où les gens commencent à redresser la tête, et la gauche redresse la tête. Ça n'était peut-être pas le bon moment, mais bon, voilà, c'est arrivé comme cela. Il y a eu une tentative. Alors il y avait une dette qui se traînait depuis très longtemps, une dette importante pour un titre tel que celui-là. C'est un, entre guillemets, c'est un petit journal. C'est pas le JDD, si vous voyez ce que je veux dire. Bon.
Il n'a pas été racheté par Bolloré.
Non. Ben non. Non, on n'a plus de racheteur non plus. Donc il y a eu une tentative de reprise de la ligne, d'extension, de la, comment je vais dire, on a essayé de faire un journal un peu plus ouvert et surtout plus étendu sur l'ensemble de la région Hauts-de-France, c'est-à-dire 5 départements. C'était très ambitieux.
Ces derniers mois.
Hein, c'était ces derniers mois, depuis février en fait. Hein. Mmh. C'était brutal. Avec une équipe qui est arrivée de Paris, qui avait des idées bien bien précises, qui n'a pas vraiment tenu compte, je dois le dire, de l'équipe qui était en place. Ça ne s'est pas bien passé. Il n'y a pas eu fusion entre les deux.
Donc, on a parlé de harcèlement moral. Donc.
Il y en a eu pour certains journalistes. Oui, c'est vrai. Il y en a eu. Oui, il y en a eu. Il y a eu en tout cas des comportements très 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 compliqués au sein de l'équipe qui s'était divisée en deux. Et puis cette décision brutale. Lié donc aux finances, mais peut-être que le plan, quand je dis redressement, je ne parle pas que de l'argent. Il y a eu 350, 400 000 euros qui ont été injectés, mais qui ont surtout servi à régler une partie de la dette. Donc en fait, on n'a pas l'investissement, c'était beaucoup plus bas, c'était plutôt autour de 100, 120 000 euros. Et ça ne suffit pas, surtout pour couvrir une région aussi vaste, avec des journalistes qui sont venus d'une autre région, qui étaient de très bons professionnels, qui ne se sont pas entendus avec l'équipe en place, qui ont voulu faire ça à leur manière, peut-être un petit peu à la parisienne. Et la mayonnaise n'a pas pris. Et on en arrive à liquider un journal issu de la résistance.
Philippe Allienne,
et là, je trouve que oui. Voilà, ça fait vraiment très, très mal au cœur, mais pas seulement au cœur.
Alors, on sait que la Fédération du Nord du Parti communiste français soutenait ce journal. Je vais vous poser une question un peu délicate, mais il faut que je vous la pose. Est-ce que vous avez été lâché par le PCF ?
Pas du tout. Je n'ai pas été lâché par le PCF. Je viens de vous dire, il y a eu une tentative de reprise de la ligne éditoriale par une équipe qui avait promis d'y arriver, qui avait déjà de l'expérience. C'est cette même équipe qui avait repris la Marseillaise à Marseille, qui est un quotidien là aussi. Doublé d'un hebdo d'ailleurs, mais qui s'est complètement planté sur le terrain du Nord. Le PCF a fait ce qu'il a pu, il s'est fait avoir. Voilà. Et quand je dis ça, ça n'engage que moi.
C'est clair.
On est dans un moment de tension sociale, de reprise des luttes. Quelles conséquences ça a politiquement qu'un journal de cette sorte disparaisse aujourd'hui?
Il y a des échéances électorales qui arrivent, les sénatoriales, les européennes. Ce ne sera pas couvert avec un œil de gauche. Donc, je plaisantais quelquefois en disant il y a un grand journal communiste dans la région qui s'appelle La Voix du Nord. Vous pourrez leur communiquer vos communiqués. Bon, c'était une blague. Malheureusement, c'est un peu comme ça que ça va se passer. C'est ça le problème. Et puis surtout, c'est la couverture des luttes sociales. Et Dieu sait s'il y en a. J'entendais tout à l'heure, la seconde avant de prendre le micro, la lutte menée par Emmaüs à Saint-André, qui est aussi relayée par Emmaüs à Grande-Synthe. Voilà, c'est autant de luttes, et toutes les luttes sociales seront maltraitées ou beaucoup moins traitées parce qu'il n'y a plus de médias.
Merci Philippe Allienne, rédacteur en chef, ancien rédacteur en chef de Liberté Hebdo.
Carte ou porte à croire que les tiégards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte. Et on a noyé dans des litres d'essence le souvenir borgne de l'innocence, en équilibre sur un fil de feu, comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire quand tout crame, c'est même pas une réponse à la hauteur du drame. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste, quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas, mon père, ma mère ne pleuraient pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts. Porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. On n'a pas rendu l'âme, ni les armes, regarde-moi bien, je suis la preuve que les frères sont craints. Voilà ce qu'on traîne nos mains, ce que l'on sait faire de mieux, depuis que l'homme a découvert le feu. L'avenir ne me dit rien et c'est réciproque, et les cons dépissent dans leur froc. Sais-tu ce que m'évoque la fuite en vrac, les nerfs au contact des flammes comme des cailloux de crack. Repliés sur nous-mêmes, quitte à trouver seul des solutions à nos problèmes, qu'attendons-nous du système, à part ces euros, de loin la pire des gueux de rond. Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. Ils m'ont parlé des 30 glorieuses, dois-je les avertir que la suite sera laborieuse. Purée, ils n'ont pas fait jurer notre perte, censurer nos têtes, murer les portes et déclencher l'alerte. Quel sera le prochain à laisser des plumes sur le goudron? Quand pour un frangin abattu, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'est plus question de calme, pleurer c'est pas notre cas, mais l'air est au napalm. Qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rab? Prisonniers du sous-développement durable, vrais monstres élevés dans les ronces, de ces sales races qui n'ont pas les réponses. Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. 97, 2007, déjà 10 piges que la rumeur vous jette le tort. Qui ça étonne encore, hein? Alors encore plus fort pour encore plus de Delport.
Si ça étonne encore, c'était la rumeur sur Radio Campus, toujours en direct de la braderie de Lille. Nous sommes à la porte de Paris. Jean-Jacques.
On va écouter un son d'abord et on parle après.
Si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque, en tout cas en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que tu es primitif. tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est lui raconter son oppression, sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire à savoir avec la douceur, l'amour, la gentillesse et la tendresse nécessaire.
Ça, c'était Cazé, la rappeuse qu'on vient d'entendre.
Elle présente bien la problématique qu'on a envie d'aborder avec nos invités, Saïd Bouamama et Julien Talpin, deux sociologues, à qui on a envie de poser la question révolte ou émeute. Alors effectivement, dans les médias, on parle d'émeute uniquement, hein, mais on entend en sous-jacent que l'émeute, c'est justement un moment de colère sans destination politique, sans motivation politique, comme on parle de la grogne sociale lorsqu'il y a un mouvement social. Lorsqu'on parle de révolte, on est dans un autre registre. Nous, c'est celui qu'on va utiliser, qu'on a envie d'utiliser ici à On passe au rouge sur Radio Campus. Révolte peut mener une révolution. Alors, cependant, lorsqu'on brûle des écoles à côté de chez soi, lorsqu'on brûle les voitures de ses voisins, lorsqu'on brûle une crèche, etc., est-ce qu'on est vraiment dans une motivation politique ? C'est la question assez large que j'ai envie de vous poser.
Peut-être à Philippe Allienne d'abord dans le journal, si tu l'avais traité, cette info. Tu aurais utilisé quoi comme mot ?
Alors, comme mot, je ne sais pas. En tout cas, nous aurions fait le maximum pour aller voir les gens qui sont concernés. Nous leur aurions donné la parole en priorité.
Pas facile, hein ?
Non, c'est pas facile d'aller les voir, parce que d'abord, ils ne veulent pas forcément parler. Ça, c'est toute la difficulté des journalistes en général. Mais nous aurions essayé de ne pas utiliser ce vocabulaire. Parce que tu as très bien dit tout à l'heure, le mot émeute, ça veut dire pas de revendication politique. Donc, émeute, dans émeute, il y a meute, voilà. On fait pas de, on n'a rien à dire, on est là pour casser des écoles. À partir de là, on voit comment ça peut partir en vrille dans la presse. Il faut pas jeter la pierre à tous les journalistes qui font leur boulot. La plupart essaient de faire leur boulot, mais c'est vraiment pas simple d'aller sur le terrain. Ça nous rappelle quand même d'autres choses, hein. Les émeutes précédentes. Alors c'était quand? C'était 2005. Alors même si le contexte n'est pas le même, même si aujourd'hui les réseaux sociaux apportent aussi d'autres choses, en même temps les réseaux sociaux, on leur jette la pierre. Ils ont aussi on leur chantait les louanges pendant les révolutions.
On leur doit les gilets jaunes.
Dites arabes, hein, rappelez-vous, en Tunisie, tout ça. Bon, donc il ne faut pas non plus. Il faut faire très attention à ça. Faire gaffe aux mots, c'est quand on écrit et c'est aussi quand on interroge les gens. La difficulté pour les journalistes, pour la presse, pour les médias, c'est d'aller voir les gens dans ce qu'on appelle les cités, les banlieues, les quartiers. Aller les voir dans les quartiers. Mais ce problème-là, Saïd, qui est à côté de moi, le sait très bien, on le connaît depuis des décennies. Et on ne parvient pas vraiment à aller au-delà de ça.
Justement, on va poser la question à Saïd Bouamama. Révolte ou émeute, quel mot vous avez envie d'employer vous, pour parler de ce qui s'est passé à partir de fin juin et pendant quelques semaines?
La question du choix des mots n'est pas une question simplement de vocabulaire. Elle est liée à la connotation politique qui va avec. Le mot émeute en lui-même n'est pas problématique. Au moment de la Commune de Paris, on parlait d'émeute. Simplement, depuis une quarantaine d'années, depuis quatre décennies, depuis la séquence ultralibérale dans notre société, le mot émeute a été galvaudé et transformé en expression du mal-être urbain uniquement. Autrement dit, il s'agissait de le dépolitiser. En novembre 2005, lorsqu'éclate la plus grande révolte depuis la Commune de Paris, près de 400 quartiers populaires sur 21 jours, on n'avait pas connu dans les annales de révolte de ce type-là depuis la Commune de Paris.
Même mai 68, par exemple.
Et non, on n'a pas. Ça ne comporte pas autant en termes de durée et en termes d'implantation territoriale. Même mai 68 ne comporte pas cela. Et à ce moment-là, on a vu un investissement du mot émeute pour le détourner de sa signification contestatrice. Et les explications qui venaient avec étaient des explications en termes culturalistes. En gros, c'est la culture des médias, c'est le ludisme, ils s'amusent avec les émeutes, ils se copient les uns les autres, etc. En novembre 2005, les rares enquêtes qui ont été demandées aux premiers concernés, ceux qui se sont révoltés, quel mot ils voulaient utiliser, c'est le mot « révolte » qui était mis en avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le mot « révolte », ils y mettaient une revendication, alors que le mot « émeute » était galvaudé en termes d'infrapolitique, de simples réflexes, de simples révoltes brutes, de simples réactions brutes, etc. Le mot « révolte » était, lui, investi dans le sens « nous avons des revendications » et en particulier des revendications antidiscrimination.
Justement, Julien Talpin, vous avez travaillé sur la façon dont le pouvoir, depuis des décennies, bâillonne les quartiers, enlève la dimension politique à toute expression, à toute manifestation de mécontentement. Expliquez-nous un peu.
Alors, effectivement, et pour rebondir sur la question de la qualification de ce qui s'est passé en juin dernier, une des stratégies de disqualification, c'est précisément la dépolitisation. Et on l'a vu de façon tout à fait massive en juin dernier. Ça passe par le qualificatif d'émeute, mais plus largement, au fond, ce qui s'est passé a régulièrement été présenté comme une forme de libération, d'une forme de violence consubstantielle des habitants des quartiers qui relèverait d'une irrationalité. Au fond, mais comment expliquer que des habitants de ces quartiers viennent détruire des infrastructures dont ils peuvent potentiellement bénéficier ? Comment expliquer que des écoles, des bibliothèques, des centres sociaux, des crèches soient ciblées ? Et moi, je crois, en fait, et c'est ce que montrent effectivement mes enquêtes également, que les cibles n'ont pas été choisies par hasard. Alors, il ne faut pas non plus surintellectualiser, au fond, le choix des cibles. Il ne faut pas surinvestir, au fond, la dimension stratégique. Il y a quelques années dans ces révoltes. Il n'empêche, quand on regarde quelles ont été les cibles touchées, sur représentation des commissariats, il va sans dire que les relations entre la police et les habitants de ces quartiers sont compliquées. Sur représentation également des écoles. Pourquoi détruire les écoles ?
Alors,
le rapport de l'école de beaucoup des habitants et notamment des jeunes de ces quartiers est extrêmement compliqué parce que bien souvent, et moi ça ressort fortement de mes enquêtes, l'école républicaine est vue comme une des sources principales des difficultés qu'on va connaître par la suite. Au fond, les gens ont bien conscience qu'ils ont le droit à des écoles au rabais. Et c'est pas une conscience parfaitement subjective. Il y a tout un ensemble de travaux qui documentent le fait que les écoles des quartiers populaires sont de moins bonne qualité, les profs sont plus jeunes et moins expérimentés, le taux de remplacement des profs est beaucoup moins fréquent. Il y a eu des études en Seine-Saint-Denis qui montrent que les gamins ont tout simplement moins fréquemment des enseignants en face d'eux. Et voilà. Et donc, ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone est notamment incarné par la mauvaise qualité du service public d'éducation auquel ont droit les habitants de ces quartiers. Et donc, c'est aussi une forme de revanche sociale à l'égard de services publics et de l'État qui s'exprime via ces révoltes et cette violence-là. Et donc, il n'y a pas une irrationalité, une sorte de violence consubstantielle qui serait nourrie par les jeux vidéo, mais des sentiments d'injustice extrêmement profonds, notamment dirigés vers l'État et ses institutions régaliennes que sont la police l'éducation. Dernier point, peut-être, il y a également pas mal de mairies qui ont été ciblées, y compris de façon assez violente. La Île-et-Rose, ça avait surpris. Moi, très fréquemment, en fait, dans mes enquêtes, je demande, et notamment quand les gens me font part d'expériences de racisme, de discrimination, à quoi c'est dû ? C'est quoi l'origine des problèmes que vous vivez ? Et en fait, moi, je suis surpris, plus ou moins, mais en tout cas, très souvent, les gens, y compris des gens qui votent pas, qui sont pas engagés dans des assos, des mouvements sociaux, etc., ont une interprétation très politique de leurs problèmes, en fait. Et moi, ils me disent, c'est quoi l'origine des problèmes ? C'est le traitement par l'État, les élus, et y compris les élus locaux, les institutions, et y compris les médias. On en parlait, en fait, et il y a un rapport extrêmement défiant, effectivement, avec les médias dominants. Après, il ne faut pas généraliser. Il y a des pratiques médiatiques qui sont souvent, les habitants des quartiers ont un peu tendance à généraliser, mais ils ont bien conscience, en tout cas, que la stigmatisation dont ils sont l'objet est très largement alimentée, nourrie, voire construite par les médias dominants. Tout ça pour dire qu'il y a une dimension fondamentalement politique dans ce qui s'est passé en juin dernier, comme c'était le cas en 2005. Donc, plutôt révolte qu'émeute. Après, moi, je suis pas dans la coquetterie sémantique. Le risque en qualifiant ça de révolte, c'est de comme je le disais tout à l'heure, de surinvestir la dimension stratégique et organisée, alors qu'il y a une hétérogénéité du phénomène émeutier qui fait qu'il y a des cibles, en fait, qui ne rentrent pas dans cette rationalité politique. On peut interroger, par exemple, ce qui s'est passé en termes de pillage, même si là, aussi le fait de cibler des commerces privés est aussi une forme de revanche sociale face à l'exclusion sociale ordinaire de la consommation de masse que vivent les habitants des quartiers, et ce d'autant plus dans un contexte d'inflation et de montée des prix grandissants.
Justement, vous avez parlé des médias. On va entendre un son monter à partir de la séquence à 27 juin, la mort de Naël Merzouk. Ce qu'on entend dans les médias, tout de suite après.
Les policiers ont voulu le contrôler parce qu'il venait de commettre plusieurs infractions au code de la route. Et selon la version des policiers, le conducteur a foncé sur un policier qui tentait de l'arrêter. Ce policier a sorti son arme, a tiré une fois et le véhicule est allé s'encastrer dans un poteau.
À noter que ce jeune homme de 17 ans est connu des services de police, notamment pour des refus d'obtempérer, ainsi que de la conduite sans permis.
Ce gamin a 17 ans au volant d'une voiture, pardon, et qui refuse d'obtempérer avant évidemment de mourir, qui refuse d'obtempérer avec un casier déjà long et très connu des services de police. Il y a peut-être un moment où c'est le sauver aussi que de réinstaurer une autorité.
Alors moi, je peux vous dire que c'est un garçon qui n'a jamais été condamné par la justice. Voilà. Donc le présenter comme un délinquant, c'est une faute grave. C'est fait pour porter atteinte à son honneur. C'est fait pour le discréditer. Lui et sa famille. Les policiers ont servi une version qui était fausse, puisqu'ils ont expliqué que le policier qui a tiré était face au véhicule et que le véhicule lui fonçait dessus. Et il ne fait pas de doute en voyant les vidéos que c'est tout simplement un mensonge. On prend tout de suite pour parole l'évangile, les paroles des policiers. Et je pense qu'il y a évidemment un problème dans le traitement médiatique de ce dossier, comme dans tous les autres finalement, qui concernent des violences policières. Aussi, je pense que les syndicats de police ont un rôle qui est loin d'être négligeable. Ce garçon n'a jamais été condamné par la justice, et c'est pour une bonne raison. C'est qu'il n'a jamais commis de fait.
Alors, bon, vous avez entendu les réactions médiatiques qui expliquaient que finalement, il était justifié de tuer Naël Merzouk à ce moment-là, et suivi de la réaction de son avocate, qui explique bien, en effet, l'enchaînement des faits et le fait que ce garçon n'était pas du tout connu des services de police, n'était pas du tout un délinquant. On a envie de se poser la question et puis de parler de cette séquence politique qui se déploie depuis des années avec des bavures à répétition. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est une bavure ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est un assassinat ? Alors, on peut prendre ça avec ma main ?
Par définition, la bavure, c'est un acte exceptionnel qui ne s'explique pas systémiquement. Sauf que nous avons près de 400 bavures, 500 bavures sur près de 20 ans. C'est-à-dire près d'une trentaine par an.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est en accroissement par rapport à une séquence précédente ?
Je ne sais pas si c'est en accroissement, très franchement. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas affaire à des bavures, puisque c'est inscrit dans la durée, dans la récurrence, et avec toujours les mêmes profils. Ce sont des jeunes hommes de milieu populaire qui sont lors d'un contrôle de police, et avec à chaque fois le même type de scénario. Autrement dit, nous sommes devant un système, et le ramener à de la bavure, c'est s'empêcher de comprendre la réalité. S'il y a augmentation aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. S'il y a augmentation aujourd'hui, il faut le référer au fait que l'état des débats médiatiques a amené des mutations juridiques qui permettent, sous prétexte de légitime défense, de tirer. Les modifications de la loi autorisent aujourd'hui les policiers à tirer de manière beaucoup plus souple que par le passé. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent, mais qui donne déjà un certain nombre de résultats. Naël n'était pas possible auparavant de cette manière-là. Et donc, nous avons non seulement affaire à un problème systémique, mais un problème systémique qui est aujourd'hui autorisé par la loi. Au moment où a été votée cette loi de légitime défense, les mouvements militants ont parlé du droit à tuer. Autrement dit, on a donné sous prétexte de légitime défense à des policiers le droit légitime de tuer. C'est ça la réalité.
Qui ? C'est un droit de tuer une partie de la population qui est tuable.
Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des jeunes hommes, essentiellement issus de l'immigration, de quartiers populaires, et donc effectivement, la cible est donnée.
Julien Tapin, vous avez travaillé là-dessus aussi, quand vous parlez des quartiers populaires, la façon dont les revendications politiques sont bâillonnées, la police joue un grand rôle.
Effectivement, là, on l'a entendu à l'instant au sujet de Naël. Il y a toujours en fait une tentative de disqualification des victimes, où on leur invente parfois des casiers. Et quand bien même, d'une certaine façon, il y aurait eu des précédents, cela ne donne pas droit de vie et de mort sur les individus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait à l'instant Saïd Bouamama sur la dimension systémique. Et donc, le terme de bavure policière, moi, je crois, est à proscrire pour précisément interroger la dimension systémique de ces phénomènes. Systémique, ça veut dire quoi ? C'est que c'est lié aux routines, aux procédures, aux lois qui organisent le fonctionnement de l'institution policière. Alors, il y a beaucoup de débats, en fait, hein, là-dessus. Est-ce que c'est des policiers qui déconnent ou est-ce que c'est l'institution ? Voilà, moi, je suis convaincu, et tous les travaux de sciences sociales le montrent, qu'il y a des problèmes systémiques dans le fonctionnement de l'institution policière. C'est la même chose pour le contrôle des faciès également. Et la loi de 2017, clairement, a eu des effets en termes de morts létales sous les coups de la police. Il n'y a eu plus qu'un doublement depuis cette loi de 2017 votée alors que la gauche était censément encore au pouvoir, et c'est d'ailleurs une des revendications aujourd'hui de revenir sur cette loi de légitime défense qui permettrait très concrètement immédiatement aujourd'hui de faire baisser le nombre de morts sous les coups de la police. Donc bavure non, et ce qui me permet aussi d'aborder en fait la question, alors qu'une question un peu complexe, mais il y a beaucoup de débats et à juste titre sur la droitisation, l'extrême droitisation de la police, qui est une réalité, qui est documentée. On sait que les policiers votent majoritairement pour les candidats du Rassemblement National, etc. C'est évidemment un problème, mais j'ai envie de dire que quand bien même les policiers voteraient majoritairement à gauche, si les procédures, les lois qui organisent leur activité et le fonctionnement de leur profession étaient les mêmes, on aurait probablement quasiment les mêmes problèmes. Et donc le problème, c'est pas l'intention des policiers, c'est le fonctionnement de l'institution policière, et donc les réformes sont nécessairement politiques et institutionnelles à mener, me semble-t-il.
On a une actualité récente, les policiers qui étaient impliqués dans la mort d'Abdama Traoré ont été complètement blanchis hier. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de l'IGPN dans ces questions-là ? L'IGPN, c'est l'institut qui doit normalement surveiller la police et
nous protéger des policiers.
Voilà.
Mais c'est de nouveau un problème de diagnostic où on dit c'est des bavures et l'IGPN peut jouer sa fonction. C'est-à-dire que quelques policiers sortent des rangs et l'IGPN va venir rétablir le réel. Ou on dit c'est systémique, et si c'est systémique, un organe interne à l'institution policière ne peut pas intervenir. En réalité, l'IGPN, jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel de ses conclusions sont des conclusions de blanchiment des policiers qui sont concernés. Et donc, moi, je plaide maintenant pour l'existence d'un corps qui soit extérieur à l'institution policière et qui soit mandaté pour pouvoir faire les enquêtes dans ce type de situation. Tant que ça sera un corps interne, vous aurez inévitablement la protection de l'institution policière. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. L'essentiel des policiers sont blanchis ou traînés dans la durée de telle sorte que ça s'oublie.
Si je peux me permettre de rebondir.
Oui, Julien Talpin.
Cette revendication au fond d'un IGPN indépendant, autonome de l'institution policière.
C'est vrai que c'est une question qui est posée assez fréquemment.
Voilà, et qui est une revendication qui est portée historiquement par les mouvements de lutte contre les violences policières. N'est pas une utopie. C'est-à-dire qu'il existe tout un ensemble de pays du monde et européen, et je pense notamment à la Grande-Bretagne, qui disposent d'institutions de cet ordre-là, et on est frappé à quel point l'institution policière, dans le cas français, paraît irréformable, en fait. Hein. Et d'une certaine façon, je me permets de revenir à la séquence précédente de forte mobilisation de juin 2020, en fait, suite à George Floyd et les mobilisations organisées par le comité Adama sur les violences policières, qui, censément, s'était traduite par une ouverture d'un débat sur, justement, le fonctionnement de la police. Il y a eu un beau de la sécurité qui n'a débouché sur rien. Il s'était conclu d'ailleurs à l'école de police à Roubaix il y a deux ans, qui n'a débouché sur rien, et ce qui renvoie aussi à la puissance au fond des syndicats policiers pour produire de l'inertie et de l'irréformabilité de cette institution-là, et dont on paye les pots cassés aujourd'hui. Bon, moi je suis d'une certaine façon, moi j'admire les syndicats policiers. En fait. J'ai envie de dire, on aurait peut-être beaucoup à apprendre à gauche en fait de niveau d'organisation et d'influence. Il n'y a pas beaucoup d'organisations en fait aussi puissantes compétente et capable de déterminer en fait l'orientation des politiques publiques que les syndicats policiers aujourd'hui. Et donc il faudrait aller regarder en fait comment ils sont parvenus à obtenir, à construire cette puissance-là. En fait, syndicats policiers, FNSEA, ils sont de fait beaucoup plus forts que ce qu'on est en capacité de créer comme rapport de force à gauche. C'est triste, mais ça me semble la réalité aujourd'hui.
On continue d'en parler effectivement du rapport entre police et État et gouvernement et macronisme, juste après ça.
Quand je serai grand, je veux être dresseur de cirque, faire asseoir les lions et lever le public. Quand je serai grand, je voudrais être Omar Sy, pour que la police avec moi fasse des selfies. Pour l'instant, je me suis inscrit au théâtre, c'est toujours moi qui fais le rôle de l'arabe. Quand je serai grand, je veux quitter où j'habite, partir loin comme l'astronaute Thomas Pesquet. Est-ce qu'il nous voit sur l'image satellite quand on fait des doigts d'honneur à la cité? Courir pour rien devant les coffres, on a été à la bonne école, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Un rodéo en motocross, poursuivi par les robocops, on a entendu un bruit retentir. Ratatata, taran, taran, taran. Il charge, il braque, puis il tire. Ratatata, taran, taran, taran. Il charge, il braque, puis il tire. Quand je serai grand, je voudrais être journaliste, écrire dans Le Monde ou dans Mickey Magazine, pour pouvoir parler du drame des Rix qui se déroule entre la récré et la cantine. Ou bien peut-être devenir une actrice, être aussi célèbre que Leila Bekti. Comme ça je pourrais me venger de mes ennemis, ceux qui m'ont dit on t'attend à la sortie. Trois gamines et puis leur grand rof m'attendent armés devant l'école, m'ont pas laissé le temps de réfléchir. Ratatata. Un couteau papillon dans la poche, une arme de poing dans la sacoche, on a entendu un bruit retentir. Ratatata, taran, taran, taran. Il charge, il braque, puis il tire. Ratatata, taran, taran, taran. Il charge, il braque, puis il tire. Comme y'a des gens qui ne vieillissent jamais, y'a des enfants qui ont jamais été enfants. Moi quand je serai grand, je veux pas mourir trop vite, être au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai pas choisi d'habiter dans la street ou de mourir en bas de mon bâtiment. On a grandi que entre pauvres, dans un décor d'entrepôt. Je crois qu'ils auraient dû mieux nous répartir. Mon âme est morte avant mon corps, embrasse chaleureusement la daronne. Dis-lui que son enfant s'est fait.
C'est Medine sur Radio Campus. Medine, extrait de son dernier album Medine France, un artiste qu'on diffuse et qu'on aime sur Radio Campus et qu'on soutient, bien entendu. On est heureux que des types comme ça existent et chantent de cette façon-là. C'était Ratatata.
Alors on va entendre quelque chose de beaucoup moins réjouissant. C'est une députée Renaissance, hein. Non, c'est comme ça qu'on dit. On l'écoute, on en parle après.
Surtout s'interroger sur la haine qui anime ces casseurs et ces voleurs. Ils sont français, mais seulement de papier, et beaucoup parmi vous continuent à nier le lien entre ces émeutes et une immigration de masse non choisie, non contrôlée.
Donc c'est...
Ouais. Pardon.
Emmanuel Ménard, vous saviez qu'il y a une députée qui s'appelait de cette manière?
C'est sa femme.
Ah, d'accord.
C'est pour ça.
Alors, donc pas Renaissance hein, en l'occurrence. Bon, enfin, en tout cas, ça fait partie du.
En fait,
registre...
non, elle n'est pas Renaissance, elle est non étiquetée, mais apparentée à l'extrême droite.
D'accord, d'accord. En tout cas, on voulait passer ce son parce que ça fait, c'est partie du registre de choses qu'on a entendues sur. Eh bien, il y a nous et puis il y a les autres. Les autres sont complètement différents et sont. Bon, on appelait ça il y a quelques années déjà les sauvageons, les racailles. On se rappelle de Sarkozy et son Karcher. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça induit dans la tête des gens d'entendre ce genre de propos de façon répétée dans les médias et largement dans le monde politique. Saïd Bouanana.
D'abord, remarquons que c'est le retour du vocabulaire colonial. C'est le retour du vocabulaire colonial. C'est à l'époque coloniale que l'on parlait de Français de sang et de Français de papier. Il y aurait donc deux types de Français. Ceux qui par leur sang seraient Français et ceux qui seraient raccrochés et donc pas véritablement Français. Vous aurez compris le lien avec l'extrême droite, c'est la conception de la nation. Qu'est-ce qu'une nation ? Est-ce des personnes qui partagent un corpus de droits et de devoirs ou au contraire, est-ce simplement un héritage sanguin, le fait d'appartenir à une même culture, à une même nation, etc. Et donc on a aujourd'hui ce retour de ce vocabulaire. Ce que ça met dans la tête des gens, c'est qu'il y aurait différents types de Français, il y aurait de vrais Français et de faux Français. Du coup, on n'analyse plus la situation en termes d'intérêt, les travailleurs et les non-travailleurs, les prolétaires et les non-prolétaires, les riches et les pauvres. On analyse la situation en termes de vrais ou faux Français. Et c'est cette grille de lecture-là qui est diffusée par l'extrême droite, largement relayée malheureusement par de grands médias, et qui amène aujourd'hui le fait que l'extrême droite peut prendre une place aussi importante. En réalité, c'est un scandale que des élus aujourd'hui puissent utiliser ce type de vocabulaire qui sont en réalité l'aveu que le racisme peut être explicite, ouvert. Le simple fait de parler de Français de papier est en fait, devrait être poursuivi pour propos racistes. Et aujourd'hui, c'est des députés qui en parlent.
Philippe Allienne, on a une question de politique de fond. C'est à quoi ça sert tout ça pour le pouvoir ? Vous étiez rédacteur en chef donc de Liberté Hebdo, mais les questions politiques, vous les avez traitées semaine après semaine. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus.
Sur quoi exactement ?
Sur ce discours qui se développe sur les Français qui ne seraient pas vraiment des Français.
Non, mais on voit bien la presse qui est alliée à l'extrême droite et qui est de plus en plus désinhibée. On parle de cela tous les jours.
Vous avez évoqué le JDD tout à l'heure, en effet.
Mais les chaînes que vous aviez passées tout à l'heure, c'était BFM, je crois, mais je pense aussi notamment à CNews, c'est quand même assez extraordinaire. À quoi ça sert ? Parce que il y a des directions qui font pression sur des équipes journalistiques, et si ça ne marche pas, on les remplace. Je parlais tout à l'heure de remplacement d'équipes de journalistes, ça se fait partout, et on le voit précisément au JDD. Vous ne voulez pas bosser avec nous, c'est pas grave, on va aller chercher notre équipe, et on va aller chercher chez Valeurs Actuelles, qui est donc un journal d'extrême droite. Ce qui me choque, moi, personnellement, en tant que journaliste, c'est qu'on balance des vérités directes à l'antenne, comme celle que vous aviez reproduite tout à l'heure, le premier son qu'on a entendu tout à l'heure, et non seulement personne ne réagit, mais en plus, vous avez un journaliste, alors je ne sais plus s'il est présentateur ou s'il est sur le plateau, il dit, et je vous rappelle que ce jeune a passé lourd, a un casier judiciaire long. Mais comment...
Journaliste qui n'avait donc aucune information.
Comment matériellement a-t-il pu le vérifier ? Est-ce qu'il a reçu la formation sur son écran ? Elle est certifiée ? Il peut être sûr de certain de ce qu'il dit ? Non, la preuve, c'était faux. Et le lendemain, est-ce qu'il va faire amende honorable ? Non. Est-ce qu'il y a une sanction ? Non. Donc, dans ces cas-là, mais moi, je ne veux pas tout mélanger. Tous les médias ne sont pas comme ça. En presse écrite, c'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs, de faire ça. Donc, il y a là une volonté délibérée, effectivement, d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de casser du non-français, je ne sais pas si c'est du français qui n'est pas du français de sang, comme disait du français de papier. Moi aussi, cette expression m'avait choqué, je ne l'avais pas entendu depuis très longtemps. Donc, il y a effectivement une volonté politique. Maintenant, il faut des médias qui soient beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus critiques et qui soient beaucoup plus portés sur l'analyse. Pour ça, il faut des moyens, il faut du monde, il faut des gens qui aient le bagage intellectuel pour pouvoir le faire et le temps pour le faire. Et là, on est toujours dans l'immédiateté. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on fait s'emballer la machine et qu'on sert. Alors là, nous sommes dans le Nord, hein, je vais pas vous citer le ministre de l'Intérieur qui est tout près d'ici, et on sait aussi ce qu'il pense, et ce qu'il pense aussi des médias. Voilà. Donc on va servir son ministre, on va servir un ministre qui est finalement très très complaisant avec l'extrême droite, et on verra bien ce que ça va donner dans quelques mois.
Alors on a une question importante, et on a malheureusement que quelques minutes. On invite nos invités et les spectateurs qui sont là à continuer les discussions, hein, si vous en êtes d'accord d'ailleurs, dans le stand de la coordination communiste qui est derrière.
Qui s'appelle plus coordination communiste, Saïd.
C'est Rassemblement communiste.
Voilà. Bon, Rassemblement communiste, c'est juste à côté. On pourra continuer la discussion, mais je pose quand même la question, on pourra l'aborder rapidement. Comment s'en sortir par le haut? Parce qu'on a l'impression d'être dans un cercle vicieux où la fracture sociale, pour utiliser un terme un peu compliqué, mais
un peu chiraquien,
s'élargit de plus en plus. Peut-être Julien Talpin, rapidement.
Bah, effectivement, les perspectives sont sombres. On l'a évoqué, il y a une extrême droitisation, une fascisation un peu rampante de la société française. Et les discours qu'on a entendus à l'instant sur les Français de papier ne sont pas l'apanage de l'extrême droite. Hein. À droite, et y compris chez les macronistes, on entend en fait cette conception racialisée de la nation où, au fond, être français, c'est être blanc. Il faut se rappeler que pendant la dernière campagne présidentielle, la candidate de droite, Valérie Pécresse, avait repris à son compte la notion de grand remplacement, etc. Ces notions-là se diffusent aujourd'hui et deviennent assez banales, au fond. Et dans le même temps, en face, bah, on n'est peut-être pas suffisamment fort, en fait. Et moi, je suis assez pessimiste aussi après les révoltes de juin dernier, dans le sens où moi, ce que j'ai aussi perçu, c'est la fragmentation, les divisions, en fait, chez les habitants de ces quartiers-là, autour de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand bien même il est important de souligner la dimension politique de ces révoltes face aux injustices et aux inégalités vécues, en même temps, il y a beaucoup d'habitants, notamment plus âgés, qui sont dans une situation sociale un peu plus stable, qui ont des relations plus simples avec la police, qui n'étaient pas contents, en fait. Quand, comme à l'Alma, à Roubaix, bah, on brûle une entreprise, 500 salariés sur le carreau, chômage technique, etc. Quand on brûle l'école des gamins, etc. J'ai souligné la dimension politique de ces phénomènes-là, mais il n'empêche que une partie des habitants en sont victimes, et que du coup, ça contribue à diviser les habitants des quartiers. Alors que moi, je crois qu'une des conditions, précisément, pour répondre à la fascisation rampante, pour s'organiser davantage, c'est de s'unir un peu plus. Et donc là, il y a un travail politique absolument considérable qui est à mener sur tous les fronts. Les partis politiques sont quand même pas très présents dans les quartiers, même s'il y a des choses qui ont bougé ces dernières années de ce point de vue-là. Les associations sont très directement réprimées et attaquées par les pouvoirs publics, et la loi séparatisme d'il y a 2 ans en fait contribue à accentuer en fait ces formes de répression-là. Et donc c'est pas gagné, mais il faut pas lâcher et continuer à s'organiser.
Saïd Bouhamma, en quelques mots sur comment sortir par le haut de cette situation.
Un petit message d'espoir. Je partage complètement les éléments de scepticisme que Julien a abordé. Et en même temps, il faut souligner, moi qui suis un peu ancien dans ces débats-là, de comparer avec novembre 2005. Nous avons eu ici des déclarations d'élus politiques qui ne sont pas rentrés dans l'idéologie dominante, qui ont tenter de donner la réalité sur ce que signifiaient ces révoltes, qui ont refusé d'être dans la diabolisation.
Vous parlez de qui précisément ?
Je parle de la France Insoumise en particulier. Et ça, c'est un élément complètement nouveau. Si on m'avait dit, moi, en novembre 2005...
C'est vrai que c'était pas le cas en novembre 2005.
Que des députés allaient s'exprimer pour dire c'est des révoltes qui ont une base sociale, qui ont des légitimités, etc. C'était inimaginable en 2005. Et donc je pense que c'est ce mouvement-là qu'il faut amplifier. Je pense que la question qui est posée, c'est vraiment la conscientisation qu'il n'y aura pas d'alternative de gauche dans ce pays si nous acceptons la diabolisation de la partie la plus précarisée de la société, qui sont les habitants des quartiers populaires. La gauche n'existera dans ce pays que si elle se réancre dans les parties les plus précaires, les plus dominées de ce pays. Et on a quelques signes qui montre que c'est possible à nous d'accélérer le mouvement.
Quel signe, qu'est-ce que vous voyez effectivement, mis à part justement ces positions de la France Insoumise qui sont assez novatrices?
Mais c'est énorme. C'est parce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête d'un habitant des quartiers populaires. Moi qui étais en novembre 2005 déjà un acteur du mouvement social, c'était inimaginable. Pour toi, ça te semble peu de choses. Pour moi, c'est énorme. Et je peux te garantir que dans les quartiers populaires, entendre un député dire c'est n'importe quoi, ça réchauffe, ça donne l'impression qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est énorme. il n'y en a pas assez, il faut le multiplier, il faut aller dans les quartiers populaires, mais c'est ce chemin-là, nous sommes déjà dedans, il faut l'amplifier.
Julien Talpin, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus?
Non, non, je suis d'accord avec Saïd qu'il y a quand même, c'est la grosse évolution par rapport à 2005 et ça a été le fruit d'un rapport de force en fait qui a été créé par tout un ensemble de mouvements de quartiers. Un des virages, c'est 2019 en fait, et la manifestation qui avait été organisée contre l'islamophobie où une bonne partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une bonne partie de la gauche a participé.
Certains avaient foot.
Voilà, mais quand même, déjà à l'époque, et Mélenchon a fait ce virage-là en fait à cette époque-là alors qu'il venait pas du tout de ce type de position-là, et le fait qu'il emploie le terme d'islamophobie aujourd'hui et qu'il l'ait employé, d'ailleurs, Ça s'est traduit électoralement en fait. La France Insoumise a fait des bons résultats au présidentiel et aux législatives dans les quartiers. Au moment des révoltes de juin dernier, au-delà y compris de la FI en fait, hein, certains Verts et certains PS, moi j'étais surpris en fait, n'ont pas tout de suite appelé au calme, ont souligné la dimension politique de ce qui se passait, ont appelé à la réforme de l'institution policière, et c'est radicalement différent avec le silence, voire les trahisons de la gauche en 2005. Donc il y a des choses qui avancent, mais il y a encore du boulot.
Alors bon, on se rapproche de la fin de l'émission, on est même vraiment à la fin, mais on se propose, si vous êtes d'accord, de se déplacer. La transition doit se faire avec l'émission d'après, sans doute, mais alors qui est aux manettes?
Alors là, eh bien, pour la suite des programmes, on va laisser la main à Florent, on va peut-être saluer nos invités. Et terminer cette émission, Jean-Jacques.
Merci Saïd Bouamama, merci Julien Talpin, merci Philippe Allienne.
Ah, vous êtes applaudis par le public de la braderie de Lille, parce qu'on est toujours porte de Paris. Donc, en effet, avec ces deux sociologues et puis l'ancien rédacteur en chef de Liberté Hebdo, nous terminons cette émission Don Passe au Rouge. Vous pouvez nous retrouver le lundi à 19h. C'est Jean-Jacques qui a préparé cette émission.
Eh ben, merci pour cette transition. On est toujours évidemment sur les ondes de Radio Campus, le 106,6 de la bande FM.
Oui, bonjour Florent.
Tu viens
d'arriver, monsieur Florent.
Voilà.
Les punaises dans le crépi.
Bah ouais, tous les vendredis à 18h, l'émission qui parcourt les musiques du monde. À la suite de Max avec l'émission avec qui fait avec Catherine maintenant Cover en goguette. Puis à 19h, Rero, Toré Latino. À 20h,
la voix
100 mètres. Et le campus live qui a lieu souvent donc le vendredi à 21h. Voilà la tranche horaire à laquelle je participe avec plaisir et bonheur depuis 10 ans maintenant sur les ondes de campus.
Alors c'est quoi le programme? Parce qu'apparemment c'est toi le maître d'œuvre là pour l'instant.
C'est moi la speakerine en fait.
C'est
moi qui fais la speakerine, on m'a demandé.
D'accord.
Alors le programme qu'il va y avoir, alors pour faire la transition.
Parce que moi j'ai aucune musique là, hein. J'ai pas de USB, j'ai Waldo.
Ah bah écoute, c'est que justement il va y avoir peut-être du live.
Ah, il va y avoir. Du live?
Ouais, il va y avoir du live. Alors si on sait bien que dans l'ADN de campus, apporter un regard engagé sur la société, c'est quelque chose évidemment de fondamental, puisque Campus est né en 69, dans la foulée de mai 68, c'est une radio libre, indépendante, non commerciale, et qu'elle est même née, tout comme Liberté Hebdo, où on en parlait tout à l'heure.
Tu es obligé de regarder ton téléphone pour
J'ai préparé, j'ai fait des notes, j'ai fait comme la speakerine, Denise Fabre, qu'est-ce que tu crois, elle improvisait pas.
Tu devrais montrer tes genoux un peu plus, Denise elle montrait ses genoux, elle fait un effort. Ah, je l'ai fait rire, on est mort.
Oh. Et donc, si Campus offre un regard engagé sur la société, il offre aussi un large panel de musique. Et parmi ces musiques, évidemment, beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias traditionnels. Et donc, maintenant, c'est. Dans quelques instants, ça va être la place justement aux émissions qui proposent du rock sur Radio Campus, puisque au même titre que la chanson, le jazz, l'expérimental, le rap, la musique du monde, le reggae, etc., la musique rock est bien présente sur nos ondes. Alors, on va avoir 5 émissions qui vont être présentées, voilà, et on va avoir 2 mini-concerts aux alentours de 20h, hein, si j'ai bien compris. Hein, donc on a, je vais commencer à aller par un site, par un tour par ici. Alors d'abord on a Sakaf, salut Sakaf.
Salut Flo, bah écoute, donc Sakaf, voilà, j'officie sur campus
depuis un petit bout de quelques années maintenant. Et donc ça cache, il a deux émissions. C'est un fou.
C'est un fou.
Il y a le mardi, il y a 22h, 23h, c'est Chrysanthème. Alors Chrysanthème, on rigole, on s'amuse, bien sûr, c'est la bonne humeur, on apprend des trucs sur les chansons. Et surtout, on prend un thème. Donc ça peut être le soleil, la plage, l'héroïne. Vous voyez ce qu'on fait tout. Mmh. Et en fait, dans la bonne humeur, toujours, on prend aussi bien de la musette des années 40 ou du trash metal, mais c'est dans le thème.
C'est le principal.
Et voilà. Et ça permet d'avoir un foutu mélange et d'avoir plein d'époques différentes, plein de styles différents qui parlent de la même chose.
Donc, Chrysanthème en trois mots tous les mardis à 22h.
Oh, c'est ça.
Et sinon, la deuxième émission.
La deuxième émission, le jeudi, trois cordes et un cerveau, l'émission du neurone autonome. Alors, ça, c'est de 21h à 22h. Et là, on passe du punk, du libertaire, de l'alternative, de l'indépendant. Et puis, on a plein de dédicaces à nos amis des forces de l'ordre, à nos amis qui se sont barrés parce qu'ils n'ont pas le courage de rester. Mais les gens qui sont à ma droite, très à l'extrême droite là-bas, et ben on les aime beaucoup, on leur fait beaucoup de dédicaces. Et puis les gens qui sont